parle assez fort, je pense. Je veux parler un petit peu. Il faut absolument le micro.
Alors, je vais prendre le micro.
Donc, je vais aborder la prise en charge de l'hépatite chronique virale B. Donc, on va voir comment on fait le diagnostic, comment on évalue la sévérité de l'hépatite. Et après, on abordera les traitements. Donc, il y a quelques diapositives qui, à mon avis, sont un petit peu compliquées, notamment pour les traitements, pour un public non averti. Mais on va simplifier et il ne faudra pas hésiter à m'interrompre pour que je réponde à vos questions. Donc tout d'abord, le virus de l'hépatite B, c'est pas écrit sur la diapositive, mais le mode de contamination, c'est une contamination par voie sanguine ou par voie sexuelle. Donc c'est un virus à ADN, ça c'est pour le différencier du virus de l'hépatite C. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe deux types de virus de l'hépatite B. Il y a le virus sauvage et le virus mutant. Donc après, dans le détail des anticorps, on ne va pas trop rentrer dans ce détail. Donc il y a deux types de virus et en France, on voit essentiellement des virus mutants qui représentent environ 2/3 des hépatites B chroniques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en contact avec le virus de l'hépatite B ? Donc on va développer une hépatite aiguë qui souvent passe inaperçue. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne fait pas le diagnostic. Et heureusement pour les patients, dans 90% des cas, notre organisme va éliminer spontanément le virus et on va guérir. Mais si on fait une prise de sang à ce patient, on peut constater qu'il a été en contact avec le virus et qu'il en est guéri. Dans 10% des cas, malheureusement, le patient ne va pas réussir à éliminer le virus et il va se développer sur plusieurs années ce qu'on appelle une hépatite chronique, donc qui est une hépatite chronique B, et la sévérité peut être plus ou moins importante. Donc quand on parle de sévérité d'hépatite, c'est-à-dire qu'on parle de fibrose du foie. Et la fibrose du foie, c'est la dureté du foie qui augmente. Et quand un foie devient très très dur, donc une fibrose très sévère, on aboutit à la cirrhose du foie. Donc en fait, quand on a une hépatite chronique, dans 20% des cas, ça peut évoluer vers la cirrhose du foie. Donc c'est un foie qui devient extrêmement dur, qui fonctionne moins bien. Et le risque quand on a une cirrhose du foie, c'est qu'on est plus à risque d'avoir un cancer du foie. Donc ça veut dire que le virus de l'hépatite B est un facteur de risque pour avoir un cancer du foie. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est pour dire qu'en fait, la vaccination contre l'hépatite B, c'est le seul vaccin qui permet d'éviter le cancer du foie dû au virus de l'hépatite B. Donc il faut penser à ça. Et donc le temps qui s'écoule entre l'hépatite chronique, qui est plus ou moins sévère, et l'apparition d'une cirrhose ou d'un cancer du foie, ça peut aller de 10 à 50 ans. Donc ça, on ne peut pas le dire à l'avance. Et ça dépend si chez le patient, il y a d'autres facteurs de risque, comme l'obésité, une consommation excessive d'alcool ou un autre virus, comme le virus de l'hépatite C. Donc, c'est facile de faire le diagnostic de l'hépatite B, donc c'est intéressant de faire un dépistage. Et pourquoi faut faire un dépistage, notamment en France ? Parce qu'en fait, l'incidence n'est pas si faible que ça. Donc, comme le professeur Sylvain le disait, on a beaucoup, beaucoup parlé de l'hépatite C ces dernières années. Il y a eu beaucoup de campagnes de dépistage. Mais on constate qu'en France, il y a quasiment presque 300 000 personnes qui sont quand même porteuses du virus de l'hépatite B. Et on voit que c'est en ascension, hein, il y a une recrudescence, notamment avec des populations immigrées. Et comme il y a une contamination sexuelle, donc si on n'est pas vacciné, ça fait propager la maladie. Donc il y a pourquoi il faut dépister ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a un risque d'évolution vers la cirrhose, donc il faut tout faire pour éviter l'évolution vers ce stade de la maladie, et il faut tout faire pour pas que le patient voit développer un cancer du foie dû au virus de l'hépatite B. L'intérêt de dépister, c'est qu'on peut aussi proposer des traitements aux patients et on voit que notre arsenal thérapeutique dans l'hépatite B augmente d'année en année et qu'on a de plus en plus de molécules pour traiter cette hépatite, même si on n'arrive pas à éliminer définitivement le virus, on le verra plus tard. Donc nos traitements, en fait, permettent de ralentir la fibrose du foie et donc de ralentir la date d'apparition de la cirrhose et donc du cancer du foie. Alors, qui on va dépister? Donc, il y a des dépistages obligatoires. Donc, par exemple, si vous donnez votre sang ou un organe, eh bien, il y aura un dépistage obligatoire de l'hépatite virale B. Pour les femmes, eh bien, il y a au moins cette chance-là d'être dépistée. C'est que quand elles sont enceintes, il y a un dépistage obligatoire au sixième mois de la grossesse. Et c'est vrai que, par exemple, au CHU de Poitiers, on récupère beaucoup de patientes porteuses du virus de l'hépatite B après l'accouchement parce qu'il y a le dépistage systématique et il y a une filière qui marche bien entre la gynécologie et les pathologies. Donc ensuite, on va dépister les patients, enfin les personnes qui sont au contact d'un malade porteur du virus de l'hépatite B, par exemple dans une famille, ou alors quand un patient vient nous voir en consultation parce que ses transaminases, c'est-à-dire les enzymes du foie, sont augmentées, et bien de façon systématique, dans le bilan, nous, on recherche l'hépatite B et l'hépatite C. Et puis après, quand on interroge nos patients, on recherche certains facteurs de risque de transmission. Et s'il y a une notion de transfusion sanguine, de toxicomanie ou de chirurgie, de gestes endoscopiques avant les années 92, eh bien on fera un dépistage. Il y a un dépistage quasiment systématique si, chez les prisonniers, chez les immigrés ou chez des gens qui viennent de zones d'endémie, que ce soit l'Afrique, l'Asie. Et chez les personnes qui ont des partenaires sexuels multiples sans rapport protégé. Si vous avez des questions là jusqu'à présent, pas ? Non ? Alors, comment on fait ? Donc, c'est une prise de sang. Et en fait, on recherche dans le sang l'antigène HBS. Si on n'a jamais été en contact avec le virus, on n'a pas l'antigène HBS dans notre sang. Alors, une fois que chez un patient, on a découvert un antigène HBS, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut toujours faire des transaminases. Donc les transaminases, je ne sais pas si vous savez, c'est les azates et les alates. Donc là aussi, c'est une prise de sang. Et puis souvent, on fait une échographie du foie. Et ensuite, il faut, au niveau du sang, on regarde si dans le sang, il y a du virus qui se multiplie. Donc ça, c'est un petit peu plus spécialisé. Et si c'est le cas, il faut savoir si le virus a attaqué, entre guillemets, le foie et de quelle manière et quelle est la sévérité de la maladie. Donc jusqu'à il y a quelques années, comment on faisait pour voir la sévérité de la maladie au niveau du foie? Eh bien, on prélevait un petit bout de foie en faisant une ponction là entre les côtes. On prenait 2 cm de foie en longueur, hein, c'est tout fin comme un petit spaghetti. On analysait au microscope et donc on pouvait voir quelle était la sévérité de la maladie hépatique. Et puis depuis quelques années, on dispose de nouveaux examens qui permettent d'étudier cette fibrose du foie sans faire de prélèvement de foie. Parce que souvent, quand on parle aux patients d'une biopsie de foie, ça leur fait un petit peu peur. C'est un examen qui est douloureux. Il peut y avoir des complications de cet examen, même si ce n'est pas fréquent, ça peut exister. Donc maintenant, on dispose de tests qui ne sont pas invasifs, c'est-à-dire que ça, il n'y a pas de conséquences pour le patient. Donc quels sont ces tests? Donc il y a les marqueurs sériques. Donc les marqueurs sériques, ce sont des prises de sang qui permettent d'étudier la fibrose du foie. Donc il existe deux tests sériques. Donc c'est le fibrotest et le fibromètre. Donc ils sont deux prises de sang très spécifiques qui étudient la fibrose du foie. Et puis on dispose depuis 18 mois à peu près à Poitiers d'un appareil qui s'appelle le fibroscan. Donc le fibroscan, c'est un appareil qui mesure l'élasticité du foie. Donc l'élasticité du foie, c'est la dureté du foie. Donc c'est totalement indolore. Ça dure 5 minutes, on peut le faire lors de la consultation. Donc c'est comme une petite sonde d'échographie qu'on met entre les côtes sur le côté droit. On envoie une impulsion qui va se propager dans le foie, et plus le foie est dur, plus cette onde de propagation va vite. Et sur un écran, ça nous donne une valeur en kilopascal. Ensuite, on a des abacs, et en fonction du chiffre que la machine nous donne, eh bien, on peut dire il y a une fibrose sévère, il n'y a pas de fibrose, ou il y a une fibrose modérée. Et donc, il a été démontré, notamment dans l'hépatite C, que si la valeur donnée par cet appareil, le fibroscan, et par la prise de sang faite était concordante, ça pouvait remplacer la biopsie de foie dans environ 80% des cas. Donc les études actuelles n'ont pas encore été évaluées totalement dans l'hépatite B, mais on commence à le faire. Donc on peut éviter ce geste invasif qui est la biopsie de foie. Alors, je reviens juste deux minutes à l'évaluation de la fibrose du foie. Donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si il y a une fibrose très modérée, donc la fibrose, on appelle ça, nous, grand F, et ça va de 0 à 4. Donc, on dit F0, F1, F2, F3, F4. Donc, F4, c'est la cirrhose du foie. F0, il n'y a pas de fibrose au niveau du foie. Donc, le foie n'a pas souffert de cette infection virale. Eh bien, on va décider d'un traitement, et si le patient est d'accord, uniquement à partir d'une fibrose F2, d'accord ? Donc une fibrose F2, c'est une fibrose significative, et c'est ce stade-là qui va enclencher la décision ou non d'un traitement. Alors, quels sont les différents médicaments dont on dispose pour traiter l'hépatite B ? Donc actuellement sur le marché en France, on a 4 molécules. Donc vous avez la lamivudine ou le Zéfix, l'adéfovir ou l'Epsera, l'entecavir ou le baraclude et l'interféron pégylé alpha-2A. Donc on va parler un petit peu des différentes molécules et c'est là où je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué pour ceux qui ne sont pas du milieu. Donc quand on utilise l'interféron, donc on voit ce qui est en orange, c'est la quantité de virus dans le sang que très rapidement, quand on débute le traitement, la quantité de virus dans le sang s'effondre très rapidement et ensuite ça reste à un seuil stable mais très bas. Et moins il y a de virus, moins ça agresse le foie. Concernant les autres molécules qu'on appelle les analogues, eh bien, là aussi, vous observez une diminution de la quantité de virus et ensuite, ça se stabilise à des seuils très bas. Mais contrairement à l'interféron, eh bien, avec cette molécule qu'on utilise pendant plusieurs années, on peut voir des résistances apparaître. C'est-à-dire que le virus devient résistant au traitement et donc, hop, ça se remultiplie sous une autre forme. Et dans ce cas-là, il faut changer de traitement. Souvent, on rajoute une molécule et il faut faire ce qu'on appelle une bithérapie. Donc, on met deux traitements. Donc, c'est le problème de ces molécules-là. Alors, tout d'abord, le Zéfix. Donc, le Zéfix ou la lamivudine, c'était un des premiers traitements qu'on utilisait dans l'hépatite B. Donc, c'est vrai que dans les dernières années. Donc c'est vrai que c'est un traitement qui marche bien sur la charge virale. Donc on peut voir que on a une séroconversion HBE, donc là c'est très technique, d'environ 1 cas sur 2 à 4 ans. Le principal problème de cette molécule qu'on utilise en fait de moins en moins, c'est que au fil du temps, et là vous voyez qu'au bout de 4 ans de prescription, dans 70% des cas, il y a des résistances qui apparaissent. Donc en fait, c'était une molécule qui était très efficace, mais il y a beaucoup de résistances qui apparaissent et donc on l'utilise de moins en moins en première intention. Et donc quand il y a une résistance, on est obligé de rajouter une deuxième molécule, donc un deuxième médicament. Alors l'Epsera ou l'adéfovir, donc c'est vrai qu'il a été ces dernières années plus utilisé que la lamivudine à cause de ce problème de résistance. Et là aussi, on voit qu'au bout de 3 ans de traitement, eh bien, il permettait de diminuer de façon significative la quantité de virus dans le sang d'environ 50% des cas et il était un peu plus performant que la lamivudine. Et concernant les résistances, il entraîne moins de résistance que la lamivudine, parce qu'on a vu 70% à 3 ans, mais c'est quand même là 29% à 5 ans. Donc c'est quand même pas nul. Un tiers des malades, au bout de 5 ans de traitement, vont devenir résistants à ce traitement. Et là aussi, il va falloir changer le médicament ou en rajouter un. Donc il y a le petit nouveau qui est l'entecavir, donc qui a été mis sur le marché en France l'année passée. Donc c'est le baraclude. Donc on n'a pas des données sur 5 ans de recul, mais ce qui est intéressant avec le baraclude, c'est qu'il diminue très vite la charge virale. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc il permet de négativer le virus dans le sang dans 91% des cas. Et pour l'instant, à un an, il n'y a pas de résistance. Donc c'est vrai qu'actuellement, si on doit débuter un traitement pour l'hépatite B par un analogue, on va utiliser en première intention le baraclude parce qu'il y a moins de résistance et il agit plus vite. Alors l'interféron. Donc les trois molécules dont je viens vous parler, ce sont des médicaments qui se prennent sous forme de comprimés. Donc l'observance est facile, c'est pas trop contraignant. Tous les jours, on a un comprimé à prendre sur plusieurs années, voire toute la vie. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on pourra l'arrêter. Donc maintenant, on va parler de l'interféron. Et là, c'est un traitement complètement différent parce qu'il s'agit de faire une piqûre une fois par semaine pour, pendant un an. Et là, il y a beaucoup plus d'effets secondaires que les autres médicaments qui sont très bien tolérés. Donc certes, c'est un an de traitement, mais avec des effets secondaires et plus de contraintes. Donc l'interféron pegylé, il est efficace dans l'hépatite chronique virale B. Et donc on peut voir qu'il permet une séroconversion HBE dans environ un tiers des cas, une diminution significative de la charge virale dans un tiers des cas aussi. Et contrairement aux autres molécules, dans environ 3% des cas, donc vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça, on peut éliminer le virus. Et actuellement, il y a de nombreuses études sur des nouvelles molécules qui vont bientôt sortir. Donc je vais citer deux principales. Donc c'est la telbivudine, donc qui devrait être mise sur le marché peut-être cette année, non ? En France, enfin bientôt. Et le tenofovir, qui est déjà utilisé pour l'infection VIH et qui marche très bien. Et l'intérêt, je pense, du tenofovir, c'est que ça diminuera très très vite la charge virale B. Et puis dans l'avenir, il y aura peut-être des combinaisons de traitements, c'est-à-dire l'association des molécules dont je vous ai parlé tout à l'heure avec de l'interféron, ou alors, comme dans le VIH, des associations de plusieurs analogues, dont ça sera des bi- ou des trithérapies antivirales, pour éviter les résistances notamment. Donc en pratique, comment on fait ? Donc on nous adresse un patient chez qui on a découvert un antigène HBS, on compte le nombre de virus dans le sang, l'ADN du virus de l'hépatite B et les transaminases. Donc si le virus est en quantité importante et les transaminases élevées, soit on fait la biopsie de foie, comme je vous disais tout à l'heure, soit les deux examens dont j'ai parlé, le fibroscan et la prise de sang qui étudie la fibrose du foie. Donc s'il y a une fibrose qui est peu sévère, en dessous de F1, eh bien, on fait une simple surveillance. Il n'y a pas d'urgence à envisager un traitement car on est très loin de la cirrhose du foie. Par contre, si on a une fibrose significative, c'est-à-dire F2, eh bien, c'est temps de réagir pour tout faire pour éviter l'évolution vers la cirrhose et donc le cancer du foie. Et là, il faut absolument motiver le patient pour qu'il accepte le traitement. Donc, qui on va traiter ? Donc, on traite plutôt les patients qui ont des charges virales élevées avec des transaminases augmentées et une fibrose significative. Et bien sûr, c'est du cas par cas. On n'impose pas au patient, on va discuter avec lui. Et si en plus, il a d'autres facteurs de risque de cirrhose, eh bien, on l'incitera encore plus à se faire traiter. Donc, si on compare les deux grandes classes de traitements, donc soit l'interféron, soit les médicaments qu'on prend sous forme de comprimés, eh bien, concernant la tolérance, donc l'interféron, la tolérance est médiocre, alors que pour les analogues, elle est bonne. L'intérêt de l'interféron, c'est que c'est sur une durée limitée, 1 an, alors que les autres, c'est une durée indéfinie et ce sera peut-être à vie. Avec l'interféron, on peut avoir une réponse prolongée et il n'y a pas de résistance, donc ça c'est intéressant, alors qu'avec les analogues, il y a des risques de résistance d'autant plus importants que la molécule est ancienne. Avec l'interféron, on peut parfois négativer l'antigène HBS et ça c'est intéressant, même si c'est un petit pourcentage de patients, alors qu'avec les analogues, c'est beaucoup plus rare. Donc comment traiter ? Donc généralement, en première intention, on va proposer le traitement par interféron, puisque c'est une courte durée, enfin c'est quand même 1 an, hein, et il y a une possibilité de réponse prolongée. Et en cas de non-réponse à l'interféron ou de contre-indication, on va utiliser les analogues, et c'est vrai qu'en 2008, on aura plutôt tendance à utiliser le dernier sorti, qui est l'entecavir, parce qu'il y a moins de résistance. Terminé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, c'est pas sur les diapositives qu'on nous a fournies, mais en fait, le message, c'est qu'il faut se faire vacciner contre l'hépatite B, parce que ça évite quand même tous ces ennuis. Et c'est vraiment dommage qu'en France, il n'y ait que 26%, tu as dit, de la population vaccinée. Donc vraiment, moi je crois que le gros effort à faire, c'est chez les nouveau-nés. Donc il faut vraiment inciter les parents à vacciner leurs jeunes enfants. Et si ça n'a pas été fait dans l'enfance, il faut vraiment y songer à la période de l'adolescence, parce que la transmission sexuelle est quand même extrêmement élevée. Et c'est de l'ordre de 30% la transmission sexuelle quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un de contaminé par le virus de l'hépatite B. Lors de rapports non protégés, bien sûr. Donc vraiment, il faut agir à ce niveau-là, et c'est quand même un vaccin qui protège contre un cancer, donc c'est vraiment très très important. Avez-vous des questions ? Virus de l'hépatite B, effectivement, plus il y a de virus dans le sang, plus il va agresser le foie et plus il y a d'activité de la maladie. Dans le B, souvent, oui. C'est pour ça que nos traitements, le but de nos traitements, c'est pas forcément de négativer la charge virale, mais de la diminuer de façon importante. Ce qui est assez surprenant, eh bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins d'effets secondaires dans le traitement de l'hépatite B par rapport aux patients qu'on traite avec de l'interféron dans l'hépatite C. Donc ça, on n'a pas vraiment d'explication, mais c'est vrai qu'ils tolèrent beaucoup mieux le traitement dans l'hépatite B. Donc après, est-ce qu'il y a des moyens de diminuer les effets secondaires ? Oui. Donc par exemple, pour les effets secondaires pour le syndrome dépressif, donc moi je sais que je prescris assez facilement un traitement antidépresseur au début du traitement par l'interféron. Si je vois qu'au bout d'un mois de traitement ça ne va pas, j'hésite pas. Après, pour tout ce qui est effets secondaires, fièvre, myalgie, donc nous on donne un peu systématiquement du paracétamol. Bon, c'est vrai que c'est des petits moyens, hein. Donc voilà. Est assez fréquente, donc on conseille aux patients de bien s'hydrater la peau, donc c'est des moyens symptomatiques, on va dire. Hein, donc c'est vrai qu'on leur explique les principaux effets secondaires qu'on peut avoir, parce qu'on ne les a pas forcément tous, et on essaie de pallier à ces effets secondaires en donnant des conseils. vous n'êtes pas la première à faire ce genre de remarques. À dose très importante, ça peut être toxique pour le foie, et notamment dans les hépatites aiguës. Après, dans les hépatites chroniques, aux doses où on le prescrit, c'est pas délétère pour le foie. 3 grammes par jour. 1 gramme 3 fois par jour.